Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 21 mai et c'est le Festival de Cannes où nous ne sommes pas. Manu, bonjour.
Ben, bonjour Vincent.
Hein, toujours pas de... Non, t'as pas pris aucun billet.
Non, j'ai pas pris de billet encore pour Cannes.
Donc ce sera pas cette année. Mais nous allons quand même parler cinéma. De quoi tu vas nous parler d'ailleurs?
Eh bien, de la grosse, la grosse production hollywoodienne qui est sortie la semaine dernière, le fameux Godzilla, remake du remake du remake, hein, puisqu'on en est déjà, je ne sais pas combien d'adaptations, mais au moins une bonne vingtaine, en fait, hein, de Godzilla.
Mais la dernière n'était pas
La dernière était vraiment pas fameuse. Hein, ouais.
On est d'accord.
Et puis, enfin, d'un petit film d'épouvante gothique qui est sorti il y a un mois, un peu plus d'un mois, mais comme il n'y a pas grand-chose qui sort en ce moment en DVD, donc c'est La Vengeance de Lady Morgan, un film qui paraît chez Artus Film.
Et moi, eh bien, je vous parlerai de Deux jours, une nuit des frères Dardenne. Ce sera l'occasion d'ailleurs de parler de Cannes, hein, puisqu'il est en compétition. Film en avant-première hier au Diagonale, alors cannoise, hein, c'était au-delà des 21h30. Et puis, je vous parlerai d'un film que j'ai beaucoup aimé, c'est La Chambre bleue de Mathieu Amalric, adaptation d'un ouvrage de Georges Simenon, ce qui nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial Simenon, parce que je pense que c'est... sans doute l'auteur le plus adapté au cinéma français. Genre
ah bon.
Après, j'ai pas vérifié, mais je pense que, enfin voilà, il y a plus d'une quarantaine d'ouvrages qui ont été adaptés, et je n'inclus pas la télévision qui a été gourmande de Maigret. Voilà, c'est Cinérama.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Godzilla. Experience it in IMAX 3D, May 16th.
Vous avez reconnu le fameux cri de Godzilla. Alors, loin du ratage que certains critiques nostalgiques voudraient attribuer à cette grosse production hollywoodienne, Godzilla version 2014 est en revanche assez frustrant. Auteur de l'intéressant Monsters, le britannique Gareth Edwards amorce dans sa première partie un récit plus consistant et élégant que la majorité des blockbusters sortis ces dernières années. Il revient même à la source de l'original, réalisé en 1954 par Inoshiro Honda, en faisant du monstre géant, non pas une bestiole bête et méchante comme dans la version poussive de Roland Emmerich, mais un véritable héros, une sorte de régulateur de la nature qui doit affronter deux créatures impressionnantes et croisements insensés entre aliens et les insectes de Starship Troopers. Alors le réalisateur la renoue avec ce qu'on appelle le Kaiju Ega. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais Kaiju Ega. C'est initié dans les années 50 et 60, entre autres par Mothra contre Godzilla et King Kong contre Godzilla. En fait, c'est les films de monstres dans lesquels Godzilla doit affronter d'autres monstres. Et l'été dernier, d'ailleurs, on a eu Guillermo del Toro qui s'était fait plaisir avec le très primaire et à mon avis un peu décevant Pacific Rim. Hommage sincère donc au Kaiju Ega. Alors le récit met du temps à démarrer, hein. Le réalisateur en profite pour brosser le portrait de quelques personnages plutôt crédibles. Si l'on accepte en fait le cadre étriqué de ce type de film, l'histoire est assez simple, voire simpliste. Un comic book intitulé d'ailleurs Godzilla Awakening, coécrit par Borenstein, sert donc de préquel à ce film qui raconte la naissance du monstre, en attendant des suites sans doute qui vont être en préparation à l'avenir. La métaphore du monde animiste plus fort que l'homme n'est pas révolutionnaire, mais la démarche est sincère et colle assez à l'esprit de l'original et du cinéma japonais populaire, hanté par la bombe H et l'impuissance des hommes vis-à-vis des forces de la nature.
Il ne trompe personne en prétendant que ce qui s'est passé était une catastrophe naturelle. Ce n'était pas un tremblement de terre. Ce n'était pas un typhon. Ils mentent. Je ne suis pas cinglé. Cette chose qu'il protège si précieusement, il faut que j'arrive à prouver que ça existe.
L'arrogance de l'homme, c'est de penser que nous contrôlons la nature. À
alors que c'est l'inverse.
Je sais que beaucoup d'entre vous ont une famille et des proches. Et que vous voulez les aider. Le moment est venu.
Alors, je parlais de frustration, mais à mon avis, pour toi, Vincent, la plus grande frustration, ça doit être de voir Juliette Binoche qui apparaît pas plus de 10 minutes dans le film. Alors, le film bénéficie quand même d'un casting solide. Alors, outre Juliette Binoche, on aperçoit donc la présence de Bryan Cranston, oui. Le héros de Breaking Bad.
Quand même, oui.
Aaron Taylor-Johnson, vu dans Kick-Ass. Et puis, Ken Watanabe, qui apparaissait dans Inception. Alors, il y a un plaisir réel à suivre cette première partie, pleine de clichés, mais jouant habilement sur l'attente et les révélations à venir. Le réalisateur marche sur les traces de Steven Spielberg en termes de mise en scène, alliage dosé d'intimisme et de gigantisme. Et quand Godzilla débarque enfin au bout d'une heure, on se dit qu'on va en avoir plein les mirettes, qu'on va redevenir un petit garçon de 8 ans et jouir d'un délire régressif et explosif. Et là, c'est la frustration. Intelligent et habile, surtout sur le papier, mais dénué de générosité dans sa conception du spectacle, le premier combat est pratiquement filmé hors champ. C'est-à-dire la grosse papade du Godzilla envahit l'écran et par une étrange retenue, le reste de l'affrontement est retransmis à la télévision que regarde le jeune fils du héros. Alors c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée, hein, une mise à distance qui empêche de savourer le côté festif de ce type de film. Alors ce choix qui peut paraître pertinent et qui peut être intéressant est contre-productif à l'écran. La déception est d'autant plus difficile à digérer que les effets spéciaux sont vraiment de toute beauté et les images de destruction sont splendides, baignant toujours dans une lumière sombre et légèrement bleutée. La crédibilité de ces passages renvoie à l'âge de pierre, la plaisanterie de l'allemand, je le disais tout à l'heure, tout en attribuant à Godzilla un look visuel très années 50. Sur ce plan, cette préquelle, très fidèle à la première version, est une réussite. Voilà, loin d'être déshonorant, hein, ce Godzilla finit par décevoir malgré tout, d'autant qu'au fur et à mesure que le récit progresse, les personnages qui sont attachants au début perdent un peu de leur charisme. Alors Gareth Edwards semblait manier une forme de délicatesse plutôt réussie en début de métrage et frileux abandonne tout en cours de route et tout ça pour ne pas oser en plus nous en mettre plein la vue. Alors c'est d'autant plus rageant que je trouve que c'est vraiment pas un mauvais film, je trouve que c'est un film qui est très beau visuellement mais qui déçoit un peu sur le plan du spectacle. Et puis il reste, après le côté primaire du scénario, je dirais que c'est un peu inhérent à ce type de film.
Oui. Après, j'ai entendu, hein, et on l'entend un peu avec la bande-son, visiblement, il y a un soin particulier pour le son.
Alors, pour le son, hein. Pour les images, c'est ouais. Très bien. Moi, je trouve que c'est très, très bien réalisé hein, en termes de...
On dirait que c'est très graphique aussi.
C'est très graphique, très, très beau mouvement de caméra. Alors, c'est vrai qu'il s'inspire d'un comics à la base et ça se voit à l'écran. Le réalisateur, il a vraiment du talent pour retranscrire un peu l'univers de Godzilla. Et ce côté look années 50, c'est-à-dire très éloigné finalement de la bestiole qu'on voit dans le film d'Emmerich, je trouve que ça apporte quelque chose d'à la fois un peu naïf comme ça dans le contexte d'une grosse machinerie.
Donc c'est pas si mauvais que ça. Godzilla, c'est à voir, c'est sorti la semaine dernière, c'est à voir à peu près partout et notamment en VO et en 3D au Gaumont Comédie. Hein. Il y a deux séances par jour encore.
Oui, mais il passe pas au Diago ni Utopia.
Non, quand même pas. Mais voilà. Bah.
Il pourrait passer les anciens, parce que je conseille particulièrement Mothra contre Godzilla, qui est absolument formidable et qui est un des meilleurs films de cette série. Il est quand même toutefois inégal. Hein. Il y a dû en avoir de toute façon une trentaine en tout.
Ah ouais. Bah, du moment que ça fait oublier celui d'Emmerich, tout va bien.
Oui,
voilà.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et avant de jouer à un blind test spécial Simenon, eh bien, nous allons parler de La Chambre Bleue, dernier film de Mathieu Amalric. Et voici du coup la plus de 30e adaptation d'un roman de Georges Simenon, j'ai pas compté, hein, avec donc ce film de Mathieu Amalric, condensé filmique fortement recommandé de 1h16. Alors Maigret est en vacances et puis nous sommes en province, donc nous n'aurons pas affaire au redoutable commissaire divisionnaire. Et c'est précisément dans la chambre des amants que commence le film d'Amalric. Une chambre d'hôtel sur une place d'une petite ville d'Anjou, on imagine. Hein. Deux amants adultères parlent, s'étreignent, se mordent. Ils ne semblent qu'écouter à moitié la passion et l'exigence de cette femme qui demande des réponses précises, comme si l'homme voyait l'avenir, comme si elle, pardon, voyait l'avenir. Elle voyait un moment où il n'y aurait plus cette chambre d'hôtel, mais autre chose, des habitudes probablement.
Je t'ai fait mal? Non. Tu m'aimes, Julien?
Je crois.
Je n'en ai pas sûr.
De quoi exactement avez-vous peur ce soir-là?
La vie est différente quand on la vit, quand on l'épluche après coup.
À quoi tu penses?
À toi.
Elle vous mordait souvent?
C'est arrivé.
La vie est différente quand on la vit et quand on l'épluche après coup, dit le héros malheureux. Alors sans doute que cette phrase a fait tilt hein, dans l'esprit d'Amalric pour qu'il réalise la chambre bleue, car toute la narration tourne autour de cette simple pensée qui distingue le présent, l'accompli et la reconstitution. Car après des morts suspects, Julien l'adultère doit s'expliquer, doit dire et redire, revoir et revivre avec l'oreille attentive du technicien devant lui, c'est-à-dire le juge d'instruction. Il doit revivre sa passion, sa vie de quelques mois. Alors il est accusé d'un crime et doit répondre, gendarme, juge, psychologue, avocat, tout le monde y passe, mais on reste bien souvent avec ce juge d'instruction qui, avec méticulosité et habitude, tente de comprendre, de percer le non-dit, les mensonges, de lier tous ces instants qui ont précédé le meurtre. Alors est-il vraiment coupable et surtout de quoi est-il coupable? Chacun trouvera une explication.
Pourquoi vous m'interrogez pour la sixième ou la septième fois? Parce que les journaux parlent de moi comme d'un monstre?
Racontez-moi le commencement.
Vous n'avez jamais pensé à la possibilité d'une lettre anonyme?
Personne n'était au courant. Tu m'en veux, Delphine?
Je préfère quand t'es heureux.
Je suis plus heureux des hommes.
C'est vrai que tu pourrais passer toute ta vie avec moi?
Bien sûr.
Si sûr que ça?
La chambre bleue est un objet filmique à part, alors il y a peu de gras, hein. Le montage est nerveux, précis, les métaphores parfois trop explicites, mais Amalric tente au moins de composer son récit. Alors il y a le passé et le présent, ce que dit Julien, l'accusé, et ce qu'on en voit. Ce dispositif est tout du long du film et nous amène toujours à cette phrase, hein. La vie est différente quand on la vit et quand on l'épluche après coup, comme le spectateur peut différencier le récit de Julien et son incarnation à l'écran. Le présent de l'audition et les flashbacks ne nous laissent aucun répit, le jeu d'acteur, les six situations sont évidemment importantes, mais dans un souci de cinéma, Amalric place ici et là des plans fixes, souci de la métaphore, mais aussi de la nuance ou de l'analogie. Alors si la chambre bleue est tourmentée autant que son personnage principal, on l'entend j'imagine à l'écoute de la bande-annonce, le récit n'enferme pas le spectateur dans une énième enquête qu'il faut à tout prix résoudre. Cette histoire de mœurs tirée de Siménon est un prétexte pour illustrer des questions aussi souveraines que la liberté ou l'amour. A noter que rien n'est vraiment académique chez Amalric et que donc le jeu des acteurs est assez surprenant, hein, oscillant entre un réalisme et un ton déclamatoire, comme si on hésitait un peu entre Bresson et Besson. Hein, c'est un peu ça. La partition d'Amalric est en revanche réussie, tout en nuances, mais il a porté ce projet, hein, donc ça doit forcément aider puisqu'il a réalisé, il est aussi devant la caméra. Et quant au rôle de fonction adopté par Pointrenaud, qui joue le juge, c'est une réussite totale, de son expression orale à son expression corporelle, surtout les mains, ça m'a complètement fasciné. Ça respire la perfection sans défaut. Et même le dessinateur Blutch, qui incarne un psy, eh bien, est absolument crédible dans son rôle. Voilà. Autant dire que je recommande la Chambre Bleue qui est projetée encore au Diagonale pour cette semaine. Et pour,
C'est son deuxième film, non, Amalric?
Je crois que c'est son troisième. Manche ta soupe.
Il y avait tournée, le stade de Wimbledon.
Et le stade de Wimbledon. Donc 4. Ouais, ça fait 4. Ouais, voilà. Et à noter d'ailleurs que De Guerlas, dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est un film qui a été déprogrammé faute de spectateurs. J'ai appris ça hier. Voilà.
Ça arrive.
Ça, c'est dommage. Donc, puisque nous parlons de La Chambre Bleue, qui est une adaptation de Simenon au cinéma, eh bien, on va faire un petit blind test, hein, parce qu'il faut savoir que c'est le quatrième auteur de langue française, Simenon. C'est le plus traduit. Après Jules Verne, Charles Perrault et René Goscinny. Ah oui, quand même. Et donc, il a écrit plus de 400 romans sous 25 pseudonymes. Il a été traduit dans 40 pays et largement donc adapté au cinéma. Donc, Manu et chers auditeurs, vous allez pouvoir jouer donc à ce blind test. Premier extrait.
Dire est l'abréviation de mon nom. Je m'appelle Irovitch Désiré Alphonse. Et vous êtes français ? Né à Paris dans le 14e. Vous habitez cet hôtel depuis longtemps ? 3 ans et 2 mois. Votre profession ? Je fais des affaires. Quel genre d'affaires ? Je prends de l'espoir comme les curés et des remèdes comme les docteurs. Vous comprenez ? C'est moi qui interroge. Vous connaissiez cette demoiselle Noblet ? Vaguement. Il vous est arrivé de bavarder avec elle ? Je ne bavarde jamais avec personne. Le jour du crime, que faisiez-vous ? Pour vous répondre, il faudrait que je suce quel jour et à quelle heure cette personne a été tuée. Que vous suciez. Vendredi, entre 7 et 8 heures du soir. C'est l'heure où d'habitude je fais mes petits achats pour le dîner. Vous étiez seul ? Je suis toujours seul. C'est à vous, ça paraît ? C'est à moi. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? La photo. Je vous demande quel genre de photo ? Je m'intéresse aux documents humains, pris sur le vif. Un casier judiciaire ? Tiens. Vous avez des papiers d'identité ? J'ignorais que par la loi, je suis obligé d'en avoir sur moi.
Ah, vraiment savoureux, hein, ce dialogue avec Michel Simon qu'on a reconnu. Et donc, tu as trouvé, Madu.
Eh oui, c'est donc Panique de Julien Duvivier, un film de 1946.
Ouais, en plus, tu as la date, tu as tout.
Eh oui, mais j'adore ce film, hein, j'adore ce ouais. film. Alors, je ne veux pas dire, parce qu'il y en a eu une nouvelle adaptation, mais peut-être que c'est dans tes choix.
Non, j'ai pas non. fait en plus les adaptations.
D'accord.
Non, j'ai gardé les originaux. Nouvel extrait.
Vous n'avez pas le droit de nous questionner hors de la présence d'un avocat.
Et vous, quand vous l'avez aidé à changer de costume, vous aussi, vous le saviez. Pas une de vous n'a branché. Ah, c'est beau, là. Vous l'avez aimé, votre Marcel.
J'espère bien.
Non, vous pouvez être fier, je vous promets qu'il y a de quoi. Ça vous flattait, hein, le côté artiste. Ça vous consolait du père, du butor, du boucher. Parce qu'il avait un métier, lui, le pauvre imbécile.
Un métier.
Madame Morin, vous êtes un monstre. Mais avant tout, un monstre de bêtises.
Vous s'agissez comme...
Vaniteuse, possessive, méchante. Mais surtout, vous êtes bête. Mais alors bête ! Parce que vous l'avez abruti, votre fils. Vous l'avez éloigné de son père, des gosses de son âge, de tout ce qui pouvait en faire un garçon comme les autres. Car il n'est pas comme les autres. Et ça, vous le savez aussi, toutes les deux. Mangez donc à sa femme. Hein ? Il avait peut-être des dons, de Marcel. Mais pas pour tout. Et ça, c'est votre œuvre. Le petit violon, le petit piano, les petites sonates, le portrait à maman, l'amour de maman. La veille de son mariage, vous devez encore le faire dormir avec un ours en peluche.
Eh oui. Et donc, après Michel Simon, c'est Jean Gabin. Donc dans une adaptation de Simenon que tu n'as pas tout à fait trouvé.
Non, je n'ai pas trouvé, puisque je vois pas il y a eu 3 adaptations avec Gabin de Maigret, mais je ne vois plus la 3e.
Eh bien, c'est Maigret tend un piège.
Ah oui.
Film de 57 de Jean Delannoy. Il y a eu une adaptation, là encore, dans les années 90.
De Maigret ?
Oui, de Maigret tend un piège, non ?
Je ne sais pas, peut-être à la télévision.
Oui, c'est peut-être à la télé, effectivement. Allez, 3e extrait.
Quel alibi, le barman ? Elle lui doit tout. Il paraît qu'il a été parfait.
Ah oui, parfait. Mais il y a une plaidoirie aussi, tu sais.
Vous la logez où ?
Quelle importance ?
Comme ça, pour savoir.
Dans un petit hôtel à Saint-Michel.
Tu sais que tout le monde me demande pourquoi tu as pris cette affaire.
Bah tiens. Et qu'est-ce que tu leur réponds ?
Que je ne sais pas. Mais je mens. Je sais pourquoi. Tu as envie d'elle ? Et depuis le premier jour. Elle aussi, d'ailleurs. Elle a peut-être même su avant toi.
Eh ben, tout le monde le savait, alors sauf moi. Qu'est-ce que tu préfères, Bordeaux ou Bourgogne ?
Bon, ben là, on entend qu'elle s'en fout, hein, oui. de la réponse, voilà.
Mais je sais pas du tout, en fait.
Alors, par contre, les acteurs, c'est Gérard Lanvin et puis Carole Bouquet. Dans le film, il y a aussi Virginie Audoyen et Guillaume Canet. C'est En plein cœur de Pierre Jolivet.
Ah oui, voilà. C'est un remake dans Cas de malheur, en fait.
Mm.
Enfin, c'est une nouvelle adaptation du film.
J'ai essayé de choisir. Donc là, enfin, on entend avec le son que c'est un film assez récent, film de 98. Et on en termine avec ce blind test spécial Simenon avec le 4e extrait. C'est un film assez récent aussi.
Il y a des gens qui viennent faire des tours de parc. Il y a des touristes qui viennent dans l'hôtel. Et je suis sûre qu'ils pensent que je fais partie du personnel. Vous savez, je vous ai fait donner une chambre à côté de la mienne. au cas où vous auriez besoin de soins.
J'en ai eu besoin.
Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez partir si vous voulez, vous pouvez rester un ou deux jours de plus. Si vous désirez une autre chambre.
Non, non.
Ben ce soir, je vais aller au trou. J'y vais tous les soirs. C'est la première fois que vous y alliez?
Oui.
Vous n'avez rien remarqué?
Vous savez, dans l'état où j'étais...
D'après Mario, tous ses clients sont des tordus. Ça vous amuse que je vous raconte l'histoire du trou et de Mario?
Oui.
Ben après, ça picole et puis ça raconte l'histoire du trou. Donc... Tu n'as pas trouvé?
Non,
Manu.
Je ne l'ai pas trouvé.
Alors, chers auditeurs, vous avez peut-être trouvé, c'est Betty,
oui,
de Claude Chabrol, avec
oui,
Marie Trintignant.
Je ne savais pas que c'était une adaptation de Simenon.
Et ouais, moi non plus, hein, d'ailleurs. Ainsi s'achève ce blind test spécial Simenon. Nous passons à la suite. Et la suite, eh bien, c'est les frères Dardenne.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Les habitués de Cannes ont projeté leur dernier long métrage du jour une nuit pour peut-être empocher une nouvelle palme d'or, récompense à laquelle ils sont habitués. Et quand ils n'ont pas la palme d'or, de toute façon, ils ont le grand prix. Alors, comment savoir qu'on est dans un film des Dardenne? Peut-être que tu peux me répondre d'ailleurs, Manu. Hein.
Je sais pas. Il n'y a pas Marion Cotillard normalement. Hein.
C'est vrai qu'il n'y a pas Marion Cotillard. Mais formellement, alors avant même le lieu, avant même la langue, l'accent belge, hein, il s'agit de la caméra épaule. Eh oui, quand même. Et donc ici, comme pour les autres films, les frères Dardenne déplacent la caméra avec leurs personnages. Alors c'est d'abord à l'intimité d'une femme à laquelle nous avons affaire, Sandra, dans sa maison, qui apprend qu'elle est virée, résultat d'un vote de ses collègues qui avaient à choisir entre une prime de 1000 euros pour tous ou la réintégration de Sandra après une absence pour dépression. Alors tel un compte à rebours, stimulé par une collègue, Sandra va aller voir chacun des votants pour essayer de les convaincre, sans trop forcer, hein, sans trop se forcer et sans trop y croire, avec un ou deux arguments qui tiennent en une phrase. Et le film, comme son éviction d'entreprise, tient à peu de choses.
T'es content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe?
T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce serait eux.
J'ai jamais dit ça.
Tu n'as pas de cœur?
Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end.
Excusez-moi de vous demander ça, mais... pour moi, c'est important de le voir, parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail. À pas aller au chômage.
La prime, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a.
Mais je sais.
T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric?
Non, je la ferme pas, dégage.
Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir.
Tu vas y arriver, j'en suis sûr.
Douce musique mélancolique dans la voiture qui roule. Donc Marion Cotillard, qui interprète Sandra, est de toutes les séquences. Hein, elle incarne parfaitement cette femme fragile et fragilisée. En tant que spectateur, eh bien, on attend les rencontres. Hein, autant de votants dans son entreprise, autant de rencontres d'individualité, de sensibilité, de besoins, de remords ou d'amertume. Et Sandra passe par de nombreuses phases. Elle traîne des pieds, espère, se flagelle. Et voilà.
Sandra, il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que
tu
restes.
Il y en a 2! Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié. Et même si j'étais reprise, t'imagines ceux que j'ai empêchés d'avoir leur prime? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Comment est-ce que je vais faire avec eux toute la journée? Comment je vais faire dans le même atelier, à la même machine, au réfectoire? J'irai même pas lundi matin. Qui décide sans moi?
En parlant de Sandra, hein, on peut aussi parler de son mari qui épaule la jeune femme, qui la recadre sans cesse, qui la stimule quand elle s'effondre. Alors si Dieu soutient tous ceux qui tombent, il n'est pas loin de le prendre pour lui, hein, ça. Sans lui, on se dit qu'elle pourrait être encore bien plus perdue. Les Dardenne évacuent de ce dispositif les enfants, qui apparaissent peu, voire seulement au détour d'une chambre qu'on range. Ça, c'était plutôt bien vu. Deux jours, une nuit, avance plus sûrement que son personnage. On va vers un dénouement implacable. Après tout, c'est un vote. Alors, éclairage en mode instantané sur sur la situation sociale, sur le rapport au travail et à l'argent, Deux jours et une nuit ne cache aucune malice. C'est un bloc d'images et de sons qui avance, un bloc de sensations à dénouer, un film porté par un questionnement moral, mais qui n'est pas un film militant ni même engagé. C'est une dose de fiction injectée dans une forme cinématographique qui s'approche du documentaire. Moi, c'est souvent ce que je retrouve chez les frères Dardenne, c'est comme une espèce de documentaire, mais bon, forcément fictionné, un documentaire presque parfait, quoi. Voilà.
Mais il y a un film un peu différent des Dardenne, hein, qui, à mon avis, à revoir et que je trouve peut-être qui est un peu au-dessus des autres, c'est Le Fils. Je le conseille parce que l'histoire de c'est Olivier Gourmet qui traque en fait un apprenti qui aurait tué son fils. Il a presque fait, avec très peu de moyens, un film un peu à suspense, en fait, assez angoissant. Et je trouve que c'est un de ses films les plus réussis, où il sort un peu du cadre, un peu social, un peu plan-plan, finalement, de film en film. Je trouve que c'est des très, très bons cinéastes, mais qui se renouvellent assez peu, finalement.
Sur la forme, très peu. Hein. Et après, on regrette. Moi, j'ai regretté, en tout cas, que ce soit Marion Cotillard, même si elle joue vraiment très bien. On l'entend, elle a changé l'accent. Enfin, elle a vraiment un jeu impeccable et elle est tous les plans. Donc, elle porte le film. Mais je regrette qu'il n'ait pas pris bien un visage inconnu, tout simplement, pour jouer ce rôle.
Ouais. Bah, c'est un peu le problème de tous ces films qui seraient un peu social, qui sont dans un contexte réaliste avec des stars. Enfin, moi, je sais que je trouve que c'est pas crédible. Imaginez ressources humaines, on met Guillaume Canet à la place du personnage principal. Ça passerait pas du tout, en fait. Parce qu'on verrait Guillaume Canet et pas...
Jalil Lesper.
Et pas Jalil Lesper,
qui
était pas connu du tout. Oui.
Effectivement, ouais. Et à noter aussi que c'est un film qui a coûté alors 7 millions d'euros. Ça, je suis très étonné parce que, bizarrement, je me suis aperçu que celui de Mathieu Amalric a coûté 1 million seulement. Et ça, je me dis...
6 millions pour Marion Cotillard, voilà.
Non, j'ai été très, très surpris. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus d'acteurs dans le film des frères Dardenne, un peu plus de mouvement, un peu plus de changement de plateau. Mais j'étais assez surpris parce que pour moi, c'était un film qui n'aurait pas dû coûter aussi cher.
Ah, voilà. C'est le temps de tournage.
Probablement.
Le temps de tournage, ça compte beaucoup. Et puis, je pense qu'effectivement, les comédiens, c'est le gros budget du cinéma français. Hein.
Oui, pareil, oui. Bon, après, tourner en Belgique, il paraît que c'est aussi très avantageux avec une coprode au Luxembourg, c'est parfait. Voilà, donc c'est à voir. Si je bavarde, Manu, c'est parce qu'on va garder ta chronique pour la semaine prochaine, puisqu'on n'a plus le temps.
D'accord, il n'y a pas de problème.
Voilà, parce que je te sentais un peu surpris, un peu fébrile, en disant, mais à quel moment il va me laisser parler du film gothique.
Non, c'est très bien comme ça, j'en parlerai après.
Ouais, donc ce sera la semaine prochaine.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Eh bien, on va faire un agenda très très vite aussi pour parler de ce soir à 17h35, donc il faut se presser en cas de rediff. Il y a Les Trois Sœurs de Yunnan de Wang Bing, le grand réalisateur chinois. Si un réalisateur chinois, c'est bien Wang Bing, dont on parle. Jeudi 22 mai à 18h, c'est le festival Tango Sud, une histoire du tango de Caroline Neal. Et puis le samedi 24 à 17h55, c'est L'école qui fait aimer l'école de Denise Gillian, toujours au Diagonale. Et puis le lundi 26 mai à 18h, c'est à nouveau, dans le cadre du festival Tango Sud, Enfance clandestine de Benjamin Avila. Toutes ces projections sont évidemment animées.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Alors, je sais même pas ce qu'il y aura pour 24 notes secondes. Mais voilà, ce sera la surprise.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.